Souvent nous pensons aux premières heures. Où le feu de l'esprit s'est déversé. Où partout Jésus accorda à son peuple la victoire. Seigneur, accorde le réveil comme l'église primitive. Et que des prodiges et des miracles accompagnent ta parole, le témoignage de ta parole. Et que avant que tu reviennes prendre ton peuple, le monde puisse encore voir ton plein salut. Pas de belles églises et d'hôtels. C'est dans les maisons qui prosternaient leurs genoux, qui se mettaient à genoux et persévéraient dans la prière. Pas de formes et de doctrines humaines et d'interprétations, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit. Accorde le réveil comme dans les temps d'autrefois et que des grands signes et des miracles accompagnent le témoignage de ta parole. Avant que tu enlèves à ton peuple, que le monde puisse voir ton plein salut. Fortifie nos mains au milieu de la nuit et proche de minuit. Accorde la puissance de ton esprit. Manifeste-toi de nouveau parmi ton peuple. Accorde le réveil comme le jour de la Pentecôte. Et que des grands signes et miracles accompagnent le témoignage de ta parole. Avant que tu enlèves ton peuple, que le monde puisse voir encore ton plein salut. Bientôt ce temps de la grâce sera passé. Et Jésus apparaîtra dans les airs. Accorde-nous la puissance d'en haut pour que nos corps soient transformés et que nous allons à ta rencontre. Accorde le réveil comme dans les temps d'autrefois. Que des grands signes et des miracles accompagnent le témoignage de ta parole avant que tu enlèves ton peuple, que le monde puisse voir encore ton plein salut. Quel miracle Dieu a accompli en moi depuis que Jésus habite dans mon cœur. Il a rempli mon cœur. Il m'a accordé la satisfaction depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. J'ai la paix et la joie. Oh, quel bonheur depuis que Jésus habite dans mon cœur. Sur le rocher du salut, mon âme se repose depuis que Jésus habite dans mon cœur. Mes fautes sont couvertes par le sang précieux depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. J'ai la paix et la joie. Oh, quel bonheur depuis que Jésus habite dans mon cœur. d'après le jour de son retour, nos yeux sont fixés. Depuis que Jésus habite dans mon cœur, bientôt il reviendra nous prendre à la maison. Depuis que Jésus habite dans mon cœur, depuis que Jésus habite dans mon cœur, depuis que Jésus habite dans mon cœur, j'ai la joie et la paix. Oh, quel bonheur depuis que Jésus habite dans mon cœur. La mort ne m'effraie plus et l'obscurité de la nuit depuis que Jésus habite dans mon cœur. Oh, la Jérusalem céleste, comme ta lumière resplendit déjà pour moi depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. Depuis que Jésus habite dans mon cœur. J'ai la paix et la joie. Oh, quel bonheur depuis que Jésus habite dans mon cœur. Oh, vous combattants, réveillez-vous, car la couronne de vie vous attend depuis que Jésus habite dans votre cœur. Après le voyage du pèlerin, la rémunération éternelle nous attend depuis que Jésus habite dans notre cœur. Depuis que Jésus habite dans notre cœur. Depuis que Jésus habite dans notre cœur. J'ai la joie et la paix. Oh, quel bonheur depuis que Jésus habite dans mon cœur. Amen. Ça, cela doit être vrai. Sinon, nous nous trompons nous-mêmes. Depuis que Jésus habite dans mon cœur, et que c'est ainsi, est-ce que la paix est présente? Est-ce que la joie est présente? Ça, nous devons nous poser cette question à tous. Sinon, nous devons l'attendre de lui. C'est-à-dire, et cela aujourd'hui. Il est prêt aujourd'hui à nous accorder ce dont nous avons besoin. Je voudrais lire une parole de Dieu. Une parole très connue, une parole courte avant la prière encore commune, dans la première épître de Jean au chapitre 3, au premier verset. Nous voulons nous lever pendant que nous lisons la parole de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et que nous mettons notre espérance en lui pour que nous soyons purs. Prions. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. Nous mettons notre confiance en toi encore ce soir. que tu puisses accorder ta grâce pour parler, accorder ta grâce pour écouter, accorder ta grâce pour mettre en pratique. Fais-nous grâce et sois proche de chacun de nous. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos transgressions. Viens-nous en secours. Tu sais, nous sommes des hommes oublieux et faibles. Souvent, si souvent nous faisons des erreurs, tu le sais plus que nous, mais nous venons et nous le confessons devant toi, que nous sommes des hommes, Seigneur, et que toi seul, tu étais dans ce monde toi-même, et que tu sais comment est-ce que c'est dans ce monde. Tu es passé avant tout, dans toutes ces choses avant nous. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette heure, nous te remercions pour ta parole que nous avons lue et que nous allons encore entendre. Bénis-nous tous de la plénitude de ta grâce. Je te le demande dans ton précieux nom merveilleux et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Chantons louange, honneur et adoration et reconnaissance. Amen. Nous nous asseyons. Nous demandons donc au frère Franck louer et remercier soit le Seigneur notre Dieu pour sa grande grâce et sa miséricorde. Remercier soit-il pour le privilège que nous avons de nous réunir pour écouter sa parole qui demeure éternellement. Remercié soit-il de ce qu'il parle encore, et remercié soit Dieu de ce qu'il y a encore des hommes présents sur terre qui sont prêts à écouter la vraie parole de Dieu. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur. Nous sommes dans une grande attente pendant ce week-end. Dans une grande attente que Dieu fasse parmi nous de grandes choses. Pouvons-nous demander qui serait là aujourd'hui pour la première fois? Levez-vous, s'il vous plaît, pour que nous puissions mieux vous voir. Oui, oui, soyez la bienvenue, bien sûr. Nos amis du Chili aussi, que Dieu vous bénisse très particulièrement. Et que je dois donner les noms. Oui, frère et sœur Munch, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, bien-aimé sœur, qui est encore ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te vous bénisse. Que Dieu bénisse. Loué soit le Seigneur, remercié soit le Seigneur. Nous avons aussi des salutations de la moitié du monde, même de la Chine. Là-bas, les préparations sont faites pour que le mois prochain, je puisse m'y rendre. J'y sois du 8 au 15 juin, il y a des réunions là-bas en Chine qui sont planifiés, et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu dans le monde entier ouvre des portes, et aussi reconnaissants de ce que la langue anglaise est adéquate et est faite pour pouvoir être maîtrisée de tous, pour que dans le monde entier, nous puissions servir le Seigneur. Nous avons des salutations de Kapstadt, des salutations de Johannesburg, des salutations de Nairobi, des salutations d'un docteur Mbie de la République du Congo, des salutations de Kinshasa, des salutations de Danemark, des salutations, oui, de près et de près, de loin et de près et de loin. Et nous aussi, d'ici, nous saluons tous fraternellement, cordialement, de cet endroit, et nous souhaitons à tous, de tout notre cœur, les riches bénédictions de Dieu. Tous ceux qui sont liés avec nous sont aussi liés avec le Seigneur. Ça, je le dis simplement dans la foi. La relation que nous avons les uns avec les autres n'est pas une amitié quelconque que nous entretenons, mais nous avons la grâce d'être le peuple de Dieu, fils et filles de Dieu, et formons une grande famille. Ensuite, nous avons un bus qui est venu de la Slovaquie ici, et nous voulons particulièrement souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs qui sont venus de la Slovaquie, aussi nos frères Ondrashek et Heimann et tous les frères qui ici sont aujourd'hui, aussi nos amis de la Tchéquie, nos amis de l'Italie, de la Suisse, de l'Autriche, de la France, de la Belgique, de l'Hollande, on pourrait presque dire de toute l'Europe. Dieu le Seigneur puisse utiliser ce week-end pour nous rapprocher plus proche de lui, nous rapprocher de lui et aussi utiliser ce week-end pour que nous puissions mieux comprendre le temps dans lequel nous sommes arrivés et l'ordonner et pouvoir l'ordonner. Je vais courtement, j'ai quelques extraits de l'Internet, particulièrement en ce qui concerne Israël. Israël a le 26 avril pensé aux 6 millions qui, pendant le Troisième Reich, eux ont perdu leur vie d'une manière cruelle, ont été mis à mort et gazéifiés et ont perdu leur vie. Et en tant que nation, et aussi toute l'Europe, a apporté ce fardeau avec les autres, que ça a été possible dans le XXe siècle de faire une telle chose. Les Écritures que Israël a choisies, c'est Ésaïe 56, au verset 5, et le monument qui, en 1953, a été édifié en tant qu'un endroit en mémoire à l'Holocauste, appelé Yad Vashem. C'est là que les noms ont été inscrits et écrits de ceux qui, pendant les moments de tribulation, de leur tribulation, ont aidé les Juifs. Et c'est ainsi que j'avais personnellement demandé à Frère Branham, est-ce que sur l'Allemagne, une malédiction se repose à cause de ça, à cause justement de ce qui a été fait aux Juifs au nom de notre pays, l'Allemagne. Et sa réponse était courte et claire, non, sur l'Allemagne se repose à cause de ça aucune malédiction. Dieu va apporter à rendre compte, va demander compte à ceux qui en sont responsables. Et c'est ainsi que nous en sommes reconnaissants de ce que le Seigneur notre Dieu ne condamne pas toute une nation et la tire pas à rendre compte, mais seulement ceux qui en sont responsables. Et j'ai aussi une très triste nouvelle. Il y a encore une nouvelle Bible qui doit être publié, et le titre s'intitule Comment est-ce que Dieu est masculin? 42 femmes et 10 hommes sont en train de s'occuper justement à traduire cette Bible qui serait donc mieux pour les femmes et mieux pour les hommes et plus juste pour les femmes et plus juste pour les hommes. Et en ce qui concerne l'Europe, de la même manière aussi, un extrait de l'Internet. La visite de l'homme, de cette personne, de cette personnalité, tous le connaissent, par Ozo, l'homme qui en ce moment est le président de la Commission européenne. Et il a visité le pape et il a dit la chose suivante, avant donc d'aller à l'interview. Donc, citation, devant cette visite, Barroso à Bruxelles a insisté en disant qu'il est heureux de présenter au Saint-Père la face de l'Europe actuelle. Ça n'aurait pas été la chose la plus grave. Ensuite, suit les trois phrases. Le portugais, donc cette personne d'origine portugaise a offert à Benoît XVI une statue en céramique de 30 cm de la Mère de Dieu, de Fatima, une statue de 30 km en céramique. Alors que j'avais lu ce mot Fatima, alors ce n'était pas seulement des cloches d'église que j'ai entendu, mais j'ai pensé à 1917, à l'apparition de la révolution d'octobre, alors que ces trois filles-là de berger auraient là-bas à Fatima avaient eu cette révélation que la Russie, d'une manière nouvelle, doit être consacrée à Dieu et consacrée et remise au cœur de Marie. 19 fois dans cette prophétie de Fatima, la Russie est cité et mentionné. Donc, c'est seulement à cause de cela que je l'ai dit, que la Deuxième Guerre mondiale avait deux objectifs. C'était, premièrement, le ravage des Juifs européens, et ensuite, l'autre, c'était de vaincre et réduire à l'impuissance l'athéisme, le bolchevisme et la Russie. Ensuite, il est décrit ici, Judas n'était pas un traître. Et ensuite, il est écrit ici l'évangile de Judas. On pourrait lire et encore une fois lire. Ce n'est plus à comprendre. Tout ce qui est dit et ce qui est écrit et ce qui est fait. Je voudrais seulement encore venir à attirer l'attention sur quelque chose. Le monde entier a entendu, n'est-ce pas, que le mouvement mondial pentecôtiste fête ses 100 ans d'existence, ont fêté ses 100 ans d'existence. 100 ans, ça fait 100 années. Donc, en avril de l'année 1906, le grand réveil sur la rue Azusa à Los Angeles. Mais ici est le point, on peut, n'est-ce pas, le voir des détails. C'était un homme de peau noire qui, depuis février, à Los Angeles, avait prêché en 1906 et rien ne s'est passé. Et au moment où ce tremblement de terre puissant à San Francisco à l'époque avait eu lieu, c'est à ce moment-là que des milliers, mais des milliers et des milliers sont venus aux réunions et que William Seymour, ce frère de peau noire en Christ, qui en tant qu'apôtre a été considéré, avait vu l'action puissante du Saint-Esprit. Mais sous cette influence-là du tremblement de terre, et de l'effet du tremblement de terre qui s'était manifesté là-bas en 1906, alors que justement, il est écrit ici, tout cela dans cet article, noir sur blanc, ce qui s'est donc passé là-bas. Mais, encore un point, je voudrais pouvoir mentionner, dans Idea Spectrum, c'est ce magazine connu ici en Allemagne, l'un, je pense, des plus connus et dans le monde entier qui est le mieux orienté. Dans ce magazine, il est écrit ici, concernant le mouvement pentecôtiste ensemble avec le mouvement charismatique, il est écrit ici que le mouvement pentecôtiste compte maintenant 589 millions de membres. 589 millions d'adeptes ou bien de membres sont dans le monde entier comptés qui se disent du mouvement pentecôtiste. Et ensuite, nous avons même la statistique ici. En 1910, et la participation, je voudrais une fois dire, des gens du plein évangile était de 0,6%. En 1970, était de 5,8%. Ensuite, dans l'année 2004, c'était 27,6%. Les deux grandes églises donc sont dépassées. Ils dépassent l'église catholique, ils dépassent l'église, pas l'église catholique, l'église évangélique, l'église protestante, l'église baptiste, méthodiste, anglicane, avec 589 millions. Ils dépassent l'église protestante et l'église baptiste, méthodiste et anglicane. Et je voudrais demander, qui de ces 589 millions de pentecôtistes sont devenus un enfant de Dieu réellement et ont expérimenté personnellement la grâce de Dieu? D'après le nom, ils portent seulement le nom de pentecôtiste, et cela particulièrement depuis le charismatique. Tous, n'est-ce pas, avec élan, sont entrés dans ces mouvements-là de la Pentecôte. Ils parlent, mais c'est la musique qui crée l'atmosphère. Et du Saint-Esprit, vraiment, il n'y a rien à sentir. Moi, ce qui me touche, ce sont les choses suivantes. D'abord, le tremblement de terre en 1906. Ensuite, l'apparition du mouvement pentecôtiste en 1906. L'apparition du réveil pentecôtiste, c'était en 1906, où justement les premières émissions transmises par la radio ont commencé avec Luc chapitre 1 sur terre. Transmission d'émissions par radio, la première fois en 1906, en décembre 1906, c'est donc la première transmission d'émission par radio sans fil qui avait été faite en 1906. Tout cela est écrit ici et ils ont utilisé Luc chapitre 1. En lisant Luc chapitre 1 concernant la naissance de notre Seigneur, cela m'a réjoui de ce que justement Dieu aussi a utilisé des années pour permettre certaines choses ou alors faire certaines choses. Et ensuite, encore la chose suivante. C'était en 1906 que ce nouveau commencement a eu lieu. Mais ensuite, 40 ans plus tard, en 1946, en mai, aussi en mai, que a apparu l'ange de l'Éternel à Frère Branham. Alors qu'à Jérusalem, à King Davis, à l'hôtel King Davis, après 2000 années, le drapeau avec l'étoile de David avait été dressé encore sous un mandat britannique jusqu'à 48. Alors que là-bas, le soir, a apparu l'ange de l'Éternel en Amérique, a apparu à Frère Branham et lui a dit: la fin des temps a commencé et il lui a donné l'ordre d'apporter le message qui sera précurseur du retour du Christ. En mai 1946. Donc nous regardons en arrière à deux événements de la même manière, en mai aussi, 1966, alors que tout à fait officiellement, ici, sur le fondement d'un ordre divin, nous avons commencé à propager le message de l'heure aussi en mai 1966. Des réunions ont été effectuées pour transmettre ce que Dieu, par sa grâce, nous a confié. Ensuite, bien sûr, comme probablement cela devait être ainsi, a apparu le mai 1979, alors que réellement, l'enfer s'était manifesté pour détruire avec ses propres oreilles, pas seulement une seule fois, mais plusieurs fois, j'ai entendu que de la bouche d'homme, j'ai entendu, l'œuvre est ton œuvre et c'est pour cette raison qu'elle doit être détruite. L'œuvre n'est pas mon œuvre, l'œuvre est l'œuvre de Dieu, est ce que Dieu fait lui-même et c'est pour cette raison qu'elle ne peut pas être détruite. Mais nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, et nous n'avons pas affaire à la chair et le sang, et nous ne sommes pas non plus dans un pique-nique et nous ne faisons pas des vacances. Nous sommes au milieu du dernier combat, placé dans la dernière bataille, dans la plus grande bataille entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, et le Seigneur lui-même nous accordera les forces nécessaires pour que sa parole, la parole de la vérité, soit portée et que l'achèvement de l'Église épouse soit expérimenté de chacun de nous. Mais encore une fois, de 1966 à 2006, maintenant, ce sont 40 ans qu'on passait, auxquels nous regardons en arrière. Je suis très sincère, je ne sais pas comment est-ce que les choses doivent continuer, mais Dieu, lui, le sait. Et je suis dans une grande attente que Dieu, très bientôt, fasse quelque chose de surnaturel, qui dépasse toutes nos pensées et nos capacités pour que sa présence parmi nous soit confirmée. Dieu accomplit ce qu'il promet. Donc, sa présence parmi son peuple. Nous regardons donc en arrière aux différentes époques. Nous avons, n'est-ce pas, l'année 1906 que nous avons mentionné, et ensuite 1946. Ce sont 40 ans qui étaient passés. Et Dieu a envoyé frère Branham pour justement accorder ce réveil-là au plein évangile, dans le sens même du mot, par sa grâce, et cela avec un ordre direct, comme tous nous le savons, que l'action surnaturelle de Dieu, telle que dans le ministère de notre Seigneur lui-même, cela s'était manifesté, car c'était un signe, c'était le signe du Messie, un prophète comme moi, vous sera suscité de Dieu de parmi vos frères et vous devez l'écouter en toutes choses, en tout ce qu'il vous dira. Et chaque âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Cette écriture fait mention de notre Seigneur et est écrite réellement dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, et cela au verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 22. Moïse a dit, ici le verset biblique est donné, Exode. Donc, Lévitique, chapitre 18, verset. Lévitique, verset 18, verset 15 et 18. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Notre Seigneur devait aussi effectuer le ministère d'un prophète. Il devait être prophète. Il devait, en tant que fils de l'homme, effectuer le ministère de prophète. Et c'est pour cette raison que nous avons les différentes désignations, fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David, fils d'Abraham. Quatre désignations de fils qui, dans les Saintes Écritures, nous sont transmis, nous ont été transmis. En tant que fils de David, il est roi. En tant que fils d'Abraham, il est héritier du monde entier. En tant que fils de l'homme, il est prophète. En tant que fils de Dieu, il est rédempteur et sauveur. Tout est ordonné dans la Sainte Écriture. C'est dans Deutéronome chapitre 18, verset 15, 18 et 19. Ensuite, au verset 23, il est écrit dans Deutéronome, pas dans Lévitique. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Et ensuite, et cela est adressé ici aux croyants, ensuite, au verset 25, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dans les jours de notre Seigneur, ça ne servait à aucune personne d'avoir une réunion pleine de fêtes et de joie, de chanter des psaumes. Mais au moment où l'heure avait frappé, où Dieu accomplissait sa parole et faisait l'histoire du salut sur terre, le temps de tout ce qui est propre et de nos propres réunions était terminé. Alors s'accomplissait ce que Dieu avait dit, et tout ce qui était de Dieu avait donc part à ce que Dieu faisait. Cela a commencé avec le ministère de Jean-Baptiste, parce qu'il était un prophète promis. Tout ce que les autres à ce moment-là faisaient ne les a plus liés avec Dieu, ne pouvait plus les lier avec Dieu. Dieu avait envoyé le précurseur et celui qui devait préparer son chemin pour que tous puissent par lui croire et venir à la vraie foi et être conduits à la réelle foi. Nous ne pouvons rien contre cela, que Dieu justement a déterminé certaines personnes à devenir des prophètes ou bien à être prophètes et les a envoyés. Aussi, frère Branham, n'en pouvait rien, sûrement pas. On ne lui a pas demandé à l'avance. Non, l'ordre divin, l'appel divin a lieu, sans qu'un homme pourrait avoir une idée ou bien le savoir à l'avance. Et l'ordre doit être exécuté. Quand nous insistons sur ces choses et que nous les mentionnons, c'est vraiment seulement pour une seule raison, pour que tous les hommes de bonne volonté puissent comprendre que nous ne sommes pas en train de croire comme ça ce que nous voulons, que nous ne sommes pas fabriqués une fois, mais que nous avons sondé les Écritures et que nous avons suivi les traces des promesses divines. Et pour justement reconnaître le temps dans lequel nous vivons et les promesses que Dieu a données pour cette époque, les respecter et les croire, et ensuite, par la grâce de Dieu, avoir part à leur accomplissement. Nous avons dans la parole d'introduction entendu, et cela était aussi ma question, en relation avec tous ces mouvements charismatiques et à tous ceux qui se disent du mouvement pentecôtiste, je pensais, mais ça aurait été bien si on pouvait vraiment faire de cette parole un test pour vraiment poser la question. Mais que dit les Écritures sur toutes ces choses? Comment était la première prédication le jour de la Pentecôte? Et comment est-ce que sont les prédications aujourd'hui dans le mouvement pentecôtiste? Et comment est-ce que sont les prédications dans toutes ces différentes mouvements pentecôtistes et charismatiques? Chaque église a été donc enregistrée, et ça nous l'avons compris, et tous sont restés là où ils étaient. L'appel à sortir est la chose la plus importante actuellement. D'abandonner le chemin large et d'abord de passer par la porte étroite pour pouvoir fouler le sol du pied du chemin étroit, pour pouvoir ainsi faire un nouveau commencement avec Dieu. Il ne s'agit pas de changer de religion et de créer comme ça un enthousiasme et une atmosphère par la musique. Ça, n'est-ce pas, c'est quelqu'un ici qui l'écrit. Et que il y a des accompagnements de musique particulières qui sont, depuis le commencement, dans le mouvement pentecôtiste. Des musiques particulières. Moi, je ne veux pas un mouvement pentecôtiste. Je veux un mouvement de l'Esprit de Dieu et que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous mouve. Et que cela soit sans une influence extérieure, mais seulement une influence d'en haut. Pas la musique disco, comme il est même dit ici, il mentionne même Elvis Presley, qui, n'est-ce pas, était l'un des, qui appartenait à l'une des plus grandes églises pentecôtistes et mouvements pentecôtistes. À quoi est-ce que ça sert d'avoir tout ce rythme dans les églises, à toutes ces personnes? Mais bien, mes frères et sœurs, la question est la suivante. Est-ce que Dieu a déjà dit, je ferai de vous un mouvement pentecôtiste? Ou bien est-ce qu'il a dit, vous qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant? Le déversement, l'effusion du Saint-Esprit a, n'est-ce pas, revêtu de la puissance d'en haut, l'Église du Nouveau Testament, d'une manière qu'elle a pu effectuer son ministère. Il faut s'examiner ici. Un test, nous avons parfois déjà mentionné cela. Pas pour critiquer, mais simplement poser la question. Qu'est-ce que prêchent tous ces gens-là, que ce soit les plus grands de personnes connues en tant qu'évangélistes de la télévision? Est-ce que vous aurez entendu ne serait-ce que l'un de ces personnes-là qui aurait mentionné et prêché Actes des Apôtres chapitre 2 tel que c'est écrit, à partir du verset 38 par exemple, et qui l'aurait prêché tel que Pierre l'a prêché, qui l'aurait prêché tel que Paul l'a prêché? C'est-à-dire, répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous n'avons pas seulement le droit, nous avons l'obligation d'examiner tout ce qui est dit au travers des Écritures, de la parole de Dieu, pour constater est-ce que cela a son origine en Dieu. Revenons dans ce point important. Dans le message de la fin des temps, c'est la même chose, car nous comprenons que tout doit être ramené dans l'état primitif. Et aujourd'hui encore, j'ai lu dans le livre de l'histoire de l'Église en ce qui concerne le baptême. Et là, il est dit clairement concernant la confession catholique du baptême. Mais qu'est-ce que moi, frère Franck, j'ai à faire avec une confession de baptême catholique ou bien alors romaine? La parole n'est jamais sortie de Rome. La parole est sortie de Jérusalem. C'est ainsi que c'est écrit dans le prophète Ésaïe au chapitre 2, très clair. La parole de Dieu sortira de Jérusalem et l'enseignement de la montagne de Sion. Où était, où a eu lieu l'effusion du Saint-Esprit? À Jérusalem, sur la montagne de Sion. C'est là où notre Seigneur a tenu le dernier souper avec ses disciples, a fêté le dernier souper avec ses disciples. C'est là que l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Alors si, avec douleur, nous disons que l'humanité, aussi ses 589 millions, ne prennent pas part et pas sans s'arrêter à ce que Dieu sont conduits à ne pas prendre part justement à ce que Dieu fait dans le présent. Et ça, c'est vraiment une douleur réelle qu'on ne peut plus supporter. Ils sont conduits à ne pas prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Alors, où reste le droit de Dieu? Car ces hommes-là ont aussi le droit d'écouter la parole de Dieu, la vérité. Où reste le droit de Dieu de leur faire écouter la parole de Dieu? Et encore, il y a un point, et permettez que encore je mentionne Frère Branham. Dieu, d'une manière puissante, Dieu l'a utilisé d'une manière puissante. Et tous nous connaissons le livre « Un homme envoyé de Dieu » écrit par Gordon Lindsay, sa femme, une Allemande, qui, alors qu'elle avait été dans la scolarité, etc., elle ne connaissait pas assez l'anglais pour suivre en classe une Frieda Neeschimpf. J'ai parlé avec les deux, lui et sa femme, mais très particulièrement la sœur Lindsay. Cette Frieda Neeschimpf, c'est comme ça qu'elle était née, donc c'est son nom de jeune fille. Elle me l'a dit pas seulement en 3 minutes, mais dans un entretien plus long, elle m'a dit que pendant 3 ans à peu près, avec Frère Branham, ils étaient toujours ensemble à voyager. À l'époque, c'était Gordon Lindsay. C'était lui qui préparait toutes les réunions de Frère Branham. Et il voyageait toujours avec Frère Branham. Et sa femme, elle a rendu témoignage particulièrement. Comment est-ce que Frère Branham mettait sa main gauche et avait pris par sa main gauche, avait mis dans sa main gauche la main du patient. Et elle dit, souvent j'étais à quelques mètres proche et j'ai vu ce signe surnaturel sur le verso de la main de Frère Branham. La maladie du patient apparaissait sur sa main. Nous ne sommes pas en train de suivre des fables habilement conçues et Dieu réellement nous a accordé ce grand privilège aussi de connaître et de rencontrer de telles personnes qui étaient des témoins oculaires, qui ont vu de leurs propres yeux et de leurs propres oreilles entendu, qui ont vu, qui ont voyagé avec Frère Branham, qui était avec lui. Et maintenant, nous arrivons bien sûr à cette grande question. Pourquoi est-ce que de telles personnes qui étaient toujours avec Frère Branham et qui voyageaient avec lui et qui vraiment ont vu l'action surnaturelle de leurs propres yeux et qui étaient si proches, pourquoi, comment est-ce qu'ils ont pas, ils pouvaient pas comprendre qu'il ne s'agit pas d'un certain signe, mais qu'il s'agit de ce que par cela, Dieu fait que attirer l'attention, voulait seulement attirer l'attention des hommes sur ce qu'il a à dire à l'Église. Et c'est peut-être raison, donc sur le message, c'est peut-être raison que nous, à cet endroit, nous mettons l'importance sur la véritable prédication du plein évangile sans interprétation. Car Jésus-Christ, notre Seigneur, demeure et reste le centre de notre prédication. Dieu utilise des serviteurs et des prophètes, Mais lui-même, il demeure celui qui sauve, qui guérit et qui accorde par sa grâce la révélation. Une question. Est-ce que tous ces évangélistes-là, appelés, bon, on ne devrait pas dire, citer des noms, jamais, qui tous ont reçu leurs inspirations lors d'une réunion de Frère Branham? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu poser la question et devoir poser la question? Mais qu'est-ce que cet homme enseigne? Qu'est-ce que cet homme croit? Ça a été ma première réaction et je le fais, je le dis, pour que Dieu soit honoré. J'avais, à l'époque, 21 ans, alors que Frère Branham en 55 était venu à Karlsruhe en Allemagne. J'avais tout de suite compris et je demandais, mais qu'est-ce, je voulais tout de suite savoir, mais qu'est-ce que cet homme croit et enseigne? Car je voyais que Dieu était avec lui de manière visible. Je savais, en 1955, qu'il y a les différentes confessions de foi et les directions aussi à l'intérieur du plein évangile. Ça, je savais déjà à l'époque. Alors que moi, je voyais la confirmation surnaturelle. J'avais seulement une seule question. Mais qu'est-ce que cet homme croit et qu'est-ce qu'il enseigne? Car je voyais que Dieu était avec lui et est avec lui. Et alors qu'en 1958, j'avais entrepris ces plus de 4000 km par toute l'Amérique pour prendre part à cette grande conférence à Dallas, Texas, j'avais seulement une seule pensée qui m'occupait, c'était de prendre part et de rentrer en connaissance de ce que cet homme croit et enseigne. Et Dieu a exaucé ma prière et mon désir. Et cet enseignement biblique, ce baptême biblique, tout a été ramené dans l'état primitif. Et c'est ainsi que, de nouveau, la question inonde mon cœur avec une douleur intérieure. Pourquoi est-ce que tous ces grands évangélistes qui étaient si proches de Frère Branham ont pu ne pas comprendre ce que Dieu a réellement dit et fait? Pourquoi est-ce que ils ont pu, malgré tout, étant à côté de Frère Branham, ils ont pu eux-mêmes construire leur propre royaume dans le royaume de Dieu? Et ici, nous arrivons à ce point où nous devons dire que Dieu, c'est vrai, dans son Église, a établi les différents ministères pour que tous ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ puissent se laisser édifier et avoir part à chaque ministère que Dieu, par sa grâce, a accordé. Nous avons, dans 1 Jean chapitre 3, tous lu, c'est pas des enfants pentecôtistes ou bien des enfants baptistes ou bien méthodistes, mais voyez quel amour le Père nous a témoigné. 1 Jean 3, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous avons reçu d'être établis dans l'adoption par le Fils de Dieu. Nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons été établis. Lisons cela du prophète Osée pour que nous puissions ici avoir la relation avec le Nouveau Testament. Osée, chapitre 1, le dernier verset. Osée, chapitre 1, verset 9. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Donc, pas mon peuple. Donne-lui le nom de pas mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Ça, c'est la conséquence. C'est le résultat dans ce chapitre. Et ensuite, dans le chapitre 2, Osée, chapitre 2, la deuxième partie du verset 1. Vous n'êtes pas mon peuple. Osée, chapitre 2, la deuxième partie du verset 1. On leur dira fils du Dieu vivant. Ici, Nous avons donc le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Israël était le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance. Et pour parler ici avec Exode 3 et 4, où Dieu s'était révélé à Moïse et lui avait donné l'ordre, parle à Pharaon et dis-lui, laisse sortir mon peuple, laisse sortir mon premier-né, mon premier fils, premier-né. Vous voulez le lire dans Exode, chapitre 4, au verset 22 et 23. Exode 4, verset 22 et 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Israël n'était pas un fils engendré de Dieu. Dans la chair, né, engendré, mais pas dans l'esprit. Adam était un fils de Dieu créé. Mais Jésus-Christ était le fils de Dieu engendré par l'Esprit de Dieu, fils de Dieu. Et maintenant, vous qui n'êtes pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Ouvrons ici pour cela dans Romains, le chapitre 9. Ici, l'homme de Dieu écrit et montre de quoi il s'agit dans l'Église du Nouveau Testament. Romains, le chapitre 9, à partir du verset 24. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Nous avons ici l'Ancien et le Nouveau Testament devant nous, tel que le Fils de Dieu était la parole de Dieu devenue chair, telle qu'il était la semence divine qui ici dans la chair a été manifestée. C'est ainsi que chaque enfant de Dieu, ou bien alors tous les hommes qui veulent devenir enfants de Dieu, doivent recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu et par l'action surnaturelle du Saint-Esprit sans musique, sans accompagnement de musique et de rythme, mais sous l'influence directe de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, expérimentée par la grâce de Dieu, la nouvelle naissance. Pas la musique aide une naissance. Quand une femme naît, c'est pas parce qu'on va mettre la musique qu'elle va mieux naître, qu'elle va mieux faire naître, ou bien une autre atmosphère qu'on pourrait créer avant qu'une naissance ait lieu. Il faut qu'il y ait un engendrement qui ait eu lieu. Et cela nous rappelle au psaume 2, le verset 7. Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Et ensuite a suivi la naissance. Ce qui est né de toi sera appelé fils du Très-Haut. Et c'est pour cette raison que nous lisons, n'est-ce pas, particulièrement dans l'évangile de Jean, celui qui est né de Dieu, celui qui est engendré de Dieu, a vaincu le monde. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre de vous éloigner de la vérité et ne pas vous conduire dans la vérité. Dieu envoie sa parole et les a guéris. D'abord, la parole doit venir. D'abord, c'est la parole qui vient en tant que la semence. Et ensuite, nous l'écoutons, nous la croyons. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vient sur nous pour créer la vie spirituelle en nous, la nouvelle vie. Vous qui n'êtes pas mon peuple, qui n'étiez pas mon peuple, vous serez appelés fils du Dieu vivant. Romains 9, verset 26. Et Jean écrit, et nous le sommes aussi. Et nous le sommes. Ce n'est pas encore manifesté ce que nous serons. Mais déjà maintenant, nous sommes enfants de Dieu, nés par le Saint-Esprit, nés de nouveau pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ des morts. Et c'est pour cette raison que nous avons la relation à Dieu, avec Dieu, reçue. Elle ne vient pas comme ça de seule. Elle doit nous être accordée par Dieu lui-même. Dans Galates, le chapitre 4, nous avons l'établissement dans l'adoption conduit devant les yeux. Galates, chapitre 4, à partir du verset 7. À partir du verset 7. Galates chapitre 4. Verset 4. Au verset 4. Mais lorsque, du verset 4 au verset 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin... Et maintenant, suit. Afin que nous recevions l'adoption, afin que nous recevions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba, Père. Verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. En allemand, par Dieu. Par Dieu. Ça, c'est l'accomplissement, la réalisation, l'achèvement de ce grand plan qui, depuis l'éternité, de ce grand plan de salut qui, depuis l'éternité, déjà a été planifié par notre Dieu. Psaume 2. Le verset 10, baisez le Fils afin qu'il ne se mette en colère et que vous périssez dans vos chemins. C'est dans le Fils que le Père personnellement nous est apparu. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. La parole de Romains, le chapitre 8, aussi à sa place ici encore. Romains, chapitre 8, une parole très, très connue de nous tous. Romains, chapitre 8, à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et comment est-ce que la conduite de l'Esprit que Dieu nous accorde a lieu? L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Si l'Esprit de la vérité est venu, quand l'Esprit de la vérité vient, il ouvrira le monde sur le péché, les yeux du monde sur le péché, sur la justice et la et le jugement. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous annoncera le futur. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont conduits dans la parole. Et c'est ainsi que il n'y a plus de résistance et il n'y a pas de contradiction. Mais il y a une conduite par l'Esprit de Dieu. Simon, qui avait reçu la révélation qu'il ne verra pas la mort jusqu'à qu'il ait vu Christ, le Messie, est venu conduit par l'Esprit de Dieu dans le temple. Il a pris l'enfant Jésus. Il a pris l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé à l'avance. Et il a tenu entre ses bras, entre ses mains, le résultat de toute la prophétie de Genèse 3 au verset 15 jusqu'à Malachie chapitre 3. Ici, nous voyons ce que c'est que la réelle conduite de l'Esprit de Dieu. D'être conduit, où les promesses de Dieu trouvent et ont trouvé leur accomplissement, de les prendre entre les mains, qu'on peut prendre entre les mains. Paul et Jean écrit ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché de la parole de la vie. Ce que Dieu fait, on peut le toucher. C'est une réalité. On peut le suivre. Ce que Dieu fait, c'est clair. C'est une réalité divine ici sur terre. Pourquoi est-ce que les hommes n'en prennent pas part? J'espère seulement que Dieu m'aide pour que je ne m'écroule pas sous ce fardeau, sous cette grande douleur que, au nom de Jésus, c'est comme ça que partout cela est chanté et témoigné, des hommes sont égarés et trompés dans des doctrines retenues. Ils n'ont pas le droit de sortir. Et les prédicateurs sont donc des gardiens de la prison et observent et font attention à ce que personne sorte. Oh, frères et sœurs, Luc chapitre 4, là il est écrit, l'Esprit de Dieu, du Seigneur, se repose sur moi pour annoncer aux prisonniers la délivrance et à ceux qui sont liés, qu'ils soient libres, qu'ils sont libres. Ici est le point important. Les hommes, les doctrines des hommes et les interprétations et les dogmes lient des hommes et les lient à une église et à une religion. La parole de Dieu libère. Et celui que le Fils rend libre, il est réellement libre. Et celui qui écoute la parole sortant de la bouche du Seigneur lui-même arrêtera, n'aura plus besoin d'écouter ce que les hommes disent. J'ai ici déjà mentionné cela, ou bien alors je crois que c'était à Zurich. J'ai mentionné ce qui nous est arrivé à Berlin le samedi de Pâques. Une prédication, Dieu était avec nous. Et plusieurs l'ont écouté, ont été bénis par cela. Et à la fin, il y a une sœur d'âge avancé qui est venue devant et a dit, frère Franck, je t'ai déjà écouté plusieurs fois à la télévision et je voulais en fait me laisser baptiser, mais je suis allé à mon pasteur et il m'a dit, oh non, il est écrit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, alors s'il te plaît, tu ne dois pas te laisser rebaptiser. Non, 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 la Bible ne permet qu'un seul baptême. C'est écrit dans Éphésiens 4. Et vous savez ce que même Luther a dit sur ceux qui se laissent rebaptiser, maudits soient ceux qui se laissent rebaptiser, oui. Et ensuite c'était, n'est-ce pas? Elle voulait venir et se laisser baptiser. Elle a écouté la prédication, elle a été touchée et bénie, et elle a commencé à se lamenter et elle disait, mais qu'est-ce que je dois faire? Comme il lui a été dit, pas seulement, il lui a été dit seulement un seul baptême, oui, mais un seul baptême, je suis d'accord avec qu'il y a un seul baptême. Mais il faut que ce seul baptême soit le vrai baptême. Il y a un seul baptême qui est juste, qui est biblique. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul baptême qui est correct, qui est juste. Si on trempe sa main dans un liquide, dans de l'eau, et on asperge quelqu'un trois fois, ça, ce n'est pas un baptême. Romains 6, à partir du verset 3. Par le baptême, avec Christ, on est enseveli dans, avec lui dans sa mort et en étant ressorti de l'eau. Cela symbolise que nous sommes ressuscités avec Christ pour de nouveau, pour marcher en nouveauté de vie. Et voilà, la sœur, avec sa dernière force, a dit, frère Franck, j'espère que Dieu encore m'accorde une autre occasion, m'accordera une autre occasion de me baptiser. Et elle a dit encore, pour aujourd'hui, c'est trop tard. Quand je pense à cette parole trop tard, alors cela vraiment me fait encore mal au cœur. Bien-aimés frères et sœurs, ne consultez pas la chair et le sang. Pensez à cela. Qu'est-ce que tous ceux qui suivaient Jean auraient pu donner comme réponse? Je vous pose une question. Est-ce que l'un de tous de toute cette foule aurait pu donner une réponse? Pourquoi est-ce qu'ils se sont répandus? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés au Jourdain? Et si on leur avait posé la question, oui, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu as été baptisé? Ils auront comme ça fait un signe avec le pôle. Mais la Bible dit, où est-ce que c'est écrit? Dans Luc, le chapitre 7, que les scribes et pharisiens ont rejeté le conseil de Dieu pour leur personne, parce qu'ils ne se sont pas laissés baptiser du baptême de Jean. C'est ce qui est écrit dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du verset 27, en relation avec Jean-Baptiste. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Et maintenant suit le verset décisif, verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, donc les douaniers, les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Que nous pouvons l'expliquer ou pas. Ce qui est important, c'est que quand le temps arrive et que le message de Dieu retentit, que nous ne demandons pas pourquoi et pourquoi, mais vraiment simplement de tout notre cœur suivre et reconnaître que ça, c'est ce que Dieu attend de nous à l'instant même, au moment même. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà demandé, mais est-ce que cela a existé auparavant? Ça n'a pas d'importance. Est-ce que cela a existé auparavant ou pas? Ce qui est important, c'est que nous, dans le moment où nous avons part à ce que Dieu fait dans le présent, que cela a eu lieu auparavant ou pas. Ce qui est important, c'est que dans le moment où nous ayons part à ce que Dieu fait. Hein? Parfois, dans l'histoire, il y a ce que Dieu a fait, c'est toujours passé pour la première fois. Et toujours de nouveau, c'est répété. Et donc, faisons mention de ce temps dans lequel nous vivons, bien-aimés frères et sœurs. Il s'agit vraiment de ne pas demander, mais pourquoi et pourquoi. Mais de dire, le Seigneur, dans sa parole, l'a ordonné. Et dans la foi et dans l'obéissance, je suis venu et je vais dans l'obéissance. Je suis venu par ce chemin et dans l'obéissance, je vais continuer à marcher sur ce chemin et pour, jusqu'à ce que je passe de la foi à la vue. Dans Romains, le chapitre 8, encore une fois, à partir du verset 14, Romains chapitre 8, à partir du verset 14, Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Suis-je conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu consultes encore la chair et le sang et que tu vas encore au prédicateur pour lui dire, oui, mais qu'est-ce que vous pensez en fait en ce qui concerne le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pour le dire sincèrement, qu'est-ce que m'intéresse ce qu'un prédicateur pense et dit là-dessus? Ce qu'un pasteur, ce qu'un évêque, ça ne m'intéresse pas. Moi, m'intéresse une seule chose. Qu'est-ce que les saintes écritures disent? Qu'est-ce que la parole de Dieu sainte enseigne? Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir du respect devant la parole de Dieu. Et ensuite, il est écrit ici, au verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Seulement des fils et des filles de Dieu ont part à ce que le Père céleste pour nous a préparé. Alors que notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, verset 17, disait, Jean 20, verset 17, disait, je vais à mon Dieu et à votre Dieu, à mon Père et à votre Père. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Psaume 89. Est-ce que je devrais le lire pour que vous puissiez savoir que cela est vraiment écrit comme ça, tout dans la Bible? Il faut seulement que cela soit trouvé, il faut que cela soit vu et ensuite expérimenté. Psaume 89, à partir du verset 27 et 28. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Lui, le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, verset 29. Où est-ce que tu trouves ta place ce soir dans la Bible? Où est-ce que tu t'ordonnes dans la Bible? Où est-ce que la Bible, où est-ce que Dieu nous ordonne aujourd'hui et nous place ce soir? Est-ce que nous sommes des croyants bibliques? Est-ce que nous marchons dans les traces des apôtres et des prophètes? Est-ce que l'enseignement et la pratique des apôtres est devenu un modèle pour nous? Ou bien est-ce que nous avons d'autres églises comme modèle que nous avons choisi? Dieu dit à Moïse, fais tout selon le modèle tel que je te l'ai montré sur la sainte montagne. Cela est à lire dans Hébreu, chapitre 8, au verset 5. Et maintenant, je pose la question, quel est mon modèle? Si l'Église au commencement, l'Église primitive, si l'Église au commencement doit être ramenée, l'Église maintenant doit être ramenée et va être ramenée à l'Église primitive au commencement, au même état. Alors il faut, pour que cela soit possible, que l'Église primitive devienne notre modèle. Et il faut que la prédication de la parole de Dieu soit aussi telle qu'elle était dans les temps des apôtres, dans l'âge apostolique. Il faut que la prédication aussi devienne notre modèle. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Jusqu'au verset 41. Répentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous que cette promesse appartient et à vos enfants et à tous ceux que et à tous ceux qui sont encore au loin. En aussi beaucoup que le Seigneur, notre Seigneur, appellera. Et ensuite, il est dit, tous ceux qui crurent sa parole se laissèrent baptiser. Et c'est ainsi qu'en ce jour-là, 3000 âmes ont été ajoutées. Imaginez-vous, si tous étaient allés à Pierre, venus à Pierre, et que chacun avait eu besoin, d'un cours particulier, et que Pierre aurait dû encore avoir besoin d'expliquer encore à chacun de quoi il s'agit. Non. Alors, le baptême n'aurait jamais eu lieu. Si Dieu parle et que la prédication touche notre cœur et que nous avons cru la prédication, alors c'est ainsi que ce qui a été prêché nous est révélé. Et au moment même précis, en même temps, le Saint-Esprit crée en nous la foi et l'obéissance et nous ne demandons plus, mais nous allons et nous nous laissons baptiser tel que cela a été ordonné. Et nous avons aussi toujours eu à le dire. S'il y a encore une résistance dans notre cœur, alors ça veut dire que le vieil homme n'est pas encore mort. Si quelqu'un est mort, il ne résiste plus. On le met dans le cercueil, il ne sait plus rien, il ne pense plus et il est enseveli. Si nous sommes vraiment crucifié et mort avec Christ. Si, comme Paul, dans Galates 2, au verset 19 et 20, nous pouvons dire, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Où est-ce que encore il peut avoir de la place pour des arguments? Tout en un seul coup est terminé, est passé et a disparu. Si nous pouvons encore mentionner cela, que ce soit Actes des Apôtres chapitre 2 ou alors le chapitre 16, là où Philippe avait prêché et baptisé et que les apôtres, et chapitre 8, où Philippe avait prêché et ensuite les apôtres sont venus pour imposer les mains à ceux qui étaient devenus croyants pour prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 10, donc chapitre 2, chapitre 8, chapitre 10, alors que Paul parlait encore, chapitre 8 et ensuite chapitre 10, le Saint-Esprit s'est déversé sur tous ceux qui entendaient sa prédication. Je viens de finir de répondre aux 32 questions qui ont été posées. Il y a une question qui s'intitule de la manière suivante. Est-ce que la nouvelle naissance et d'être rempli du Saint-Esprit, c'est la même expérience? Nous voyons dans les Saintes Écritures, il y a les versets, vous devez naître de nouveau. Il y a les versets, Jacques chapitre 1, verset 18, né de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 1, verset 1, Pierre chapitre 1, verset 23, et puis Jacques 1, verset 18, né de nouveau par la volonté de Dieu. Ensuite, nous lisons concernant d'autres versets qui parlent d'être rempli de cet esprit et d'être revêtu de la puissance d'en haut. Mais ici est le point important. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, personne n'avait besoin d'attendre. Tout a eu lieu dans une seule réunion. Devenus croyants, expérimenter la justification et le pardon de leurs péchés, la grâce, le salut et le baptême du Saint-Esprit. Tout cela dans une seule réunion. Donc, pas se disputer est-ce que cela c'est la même expérience ou pas, mais de nous demander en nous-mêmes, de poser la question à nous-mêmes, de regarder à nous-mêmes, est-ce que nous avons fait cette expérience-là? Est-ce que ça a lieu en même temps, ou bien alors ça a lieu séparé, que ça nous est accordé en même temps ou bien séparé? Ce n'est pas la chose importante. Ce qui est important, c'est que nous expérimentons ce que Dieu a promis. C'est-à-dire que nous puissions naître de nouveau pour une expérience vivante et être remplis de la puissance d'en haut et être revêtu de la puissance d'en haut. On pourrait lire beaucoup de versets bibliques concernant cela. Les versets les plus importants me semblent être aussi Actes des Apôtres, le chapitre 11, où Pierre, ici à Jérusalem, justement mentionne ce qui s'est passé dans, parmi les païens, donc dans la maison de Corneille. Il se défend et il dit ici, ici nous avons dans Actes des Apôtres chapitre 11, nous avons un témoignage clair sur ce qui s'était passé là-bas. Actes des Apôtres chapitre 11, à partir du verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles, qui te prononcera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux, comme sur nous au commencement, de la même manière que sur nous au commencement. Comme sur nous au commencement. Comme sur nous lors de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Verset 16. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que nous nous rappelons ici à cette parole-là? Ils ont été dit, prononcés. Jean l'a dit. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ensuite, au verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don de grâce qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, au même don de grâce, au nom de Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Oui. Ne jamais le faire. Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Résumons ensemble de quoi il s'agit aujourd'hui dans la prédication, aussi en regardant en arrière. 100 ans depuis le déversement du Saint-Esprit, par lequel le monde de nouveau a été saisi et conduit dans l'action surnaturelle de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Depuis le réveil pentecôtiste, 100 ans que l'Esprit de Dieu de nouveau s'est répandu. Le commencement était difficile. Le rejet était grand. Et tous les jours, il y avait des contradictions. Mais Dieu n'a pas abandonné, n'a pas arrêté. Dieu a fait un nouveau commencement en 1946. A accordé un nouveau réveil. Et que ce n'était pas seulement des dons comme parler en langue et prophétie qui étaient exercés, mais les dons de, le don de la foi et de faire des miracles. Tous ces dons, comme cela est cité dans 1 Corinthiens, le chapitre 12 et le chapitre 14, ont été rétablis et restaurés. Dieu a conduit les choses ainsi qu'avant le retour de Jésus-Christ, tout de nouveau soit rétabli dans l'état qui existait dans l'église primitive, dans l'état primitif. Maintenant, nous regardons à 40 ans de préparation en arrière, à 40 ans de préparation, à 40 ans de la propagation de l'évangile éternel, du message original de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de l'œuvre accomplie de la rédemption et de tout ce que les Saintes Écritures enseignent. C'est peut-être raison que je crois que réellement, nous nous tenons au bord du passage dans un nouveau commencement. Je le répète encore, je ne sais pas comment et je ne sais pas quand, mais je sais que Dieu est assis sur son trône et sur le trône et que je sais que lui, il avec l'Église, il achèvera son œuvre. Et bien aimés frères et sœurs, encore une fois, relevons cela. Une question aussi s'intitule dans les 32 questions. Quelle comparaison existe entre Israël et l'Église? On doit savoir que les Juifs et tous les 12 tribus, toutes les 12 tribus, pas comme cet enseignement du British Israelite qui disent que les 10 tribus quelque part se sont perdues, alors que 2 tribus et demi avaient été conduits dans la captivité, seulement 2 tribus et demi sont revenus. Et quand 10 tribus avaient été apportées dans la tribulation, aussi seulement 10 sont revenus. Tout est ici dans ce livre. Mais ici est le point de toutes ces 12 tribus. Particulièrement si, par exemple, bientôt, nous, dans quelques jours, nous pourrons demander cette question au frère Suisca. Il dira tout de suite, j'appartiens à la tribu de Lévi. Ils savent exactement à quelle tribu ils appartiennent. Ils savent, ils le savent. Et ils sont tous là. Pourquoi sont tous de ces 12 tribus tous là? Parce que dans Apocalypse 7, au chapitre 7, il est écrit que les 144 000 de chaque tribu, 12 000, seront scellés sous le ministère des deux témoins. L'Apocalypse 11. Donc Dieu veille sur sa parole. Qui veut l'aider? Qui veut aider Dieu? Ce qui est important, c'est que Dieu puisse nous, lui peut nous aider tous. C'est-à-dire, tels que les Juifs, de toutes les 12 tribus, de 143 pays sont revenus dans le pays de leur père, dans le pays de la promesse. Et pour que quand leur heure frappe, ils aient part à l'accomplissement des promesses qui sont déterminées pour eux. Avoir part. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Nous aussi, nous devons sortir de ces 347 ou bien 49 dénominations et directions de foi. Nous devons tous être appelés à sortir et revenir dans la parole de la promesse déterminée pour cette époque dans laquelle nous vivons pour pouvoir avoir part à l'accomplissement de ces promesses que Dieu a faites pour ce jour. Nous devons les croire, les reconnaître, les croire pour pouvoir avoir part. Ça, c'est la pure vérité. Et c'est pour cette raison que la prédication doit être de cette manière placée sur le chandelier et tous les hommes doivent entendre ce que Dieu nous a préparé. Croyez l'évangile avec toutes les promesses. Croyez la parole prophétique telle qu'elle nous a été transmise. Est-ce que nous devrions encore lire tous ces versets qui parlent du retour d'Israël? Qui traite le retour d'Israël à la maison. Nous l'avons déjà dit, le 7 mai 1946, alors que Jérusalem était encore sous le mandat britannique, sous le général Allenby, déjà, ils ont laissé flotter le drapeau de l'hôtel King David. L'hôtel était le premier. Cet hôtel était le premier dans lequel, à Jérusalem, en 1964, j'ai passé la nuit, l'hôtel Ken Devi. C'est là où Ben-Gurion était, où l'histoire a été faite. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un très grand privilège maintenant de vivre dans cette époque avec des yeux ouverts, avec la révélation biblique de la parole prophétique qui brille pour nous comme une lumière dans un lieu ténébreux. Beaucoup d'années sont passées. Le temps est très, très proche. Et que Dieu le Seigneur puisse nous accorder la grâce de croire comme dit les Écritures et d'avoir part à ce que Dieu a promis et à ce qu'il fait dans le présent. J'ai encore une fois la demande à exprimer. Ne consultez pas la chair et le sang. Sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de tout ce que nous croyons. Je vais éviter de croire quelque chose ou bien de prêcher quelque chose qui n'est pas rendu, comme, qui n'est pas écrit dans la Bible, que la Bible ne témoigne pas. La parole est notre lumière à notre pied. Et c'est ainsi que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront ce que l'Esprit dit à l'Église. Ils écouteront, ils croiront, et la parole et la volonté de Dieu par la grâce de Dieu leur sera révélée. Lui, le Dieu Tout-Puissant, qui aussi dans notre temps a veillé sur sa parole pour appeler à sortir et parler avec nous pour que nous puissions par cela reconnaître que nous avons trouvé grâce devant lui. Les propres chemins, nous les avons, d'avoir abandonné nos propres chemins, nos propres doctrines, nos propres convictions, interprétations, nos propres façons de voir et convictions, nous sommes revenus au Seigneur et à sa parole. Et il a dit qu'il veut faire retourner le cœur des enfants de nouveau au Père. Revenir au commencement. Louer et exalté soit le Seigneur notre Dieu. Maintenant, j'ai encore une question. Êtes-vous devant Dieu convaincu que par sa parole, il nous a donné de comprendre cette dernière partie et il nous l'a révélé, cette dernière partie de l'histoire du salut? Donc dites Amen. Amen. Oui, c'est vraiment ici. Il nous a révélé la dernière partie de l'histoire du salut. C'est vraiment ici. Êtes-vous convaincu que c'est Dieu qui nous apporte en accord avec sa parole et avec sa volonté? Dites Amen. C'est lui qui le fait. C'est ainsi. Pas unité dans la multitude des religions et des confessions, mais Père, toi en moi et moi en eux, pour que nous soyons, pour qu'ils soient un et arrivent à l'union parfaite. Nous, en cet endroit, nous nous donnons le droit. Nous nous donnons le droit de croire comme a dit les Saintes Écritures, de seulement croire ainsi, que tous puissent dire de nous ce qu'ils veulent dire. Ça, ils le font de toutes les manières. Mais nous croyons seulement comme le dit les Écritures et remercions Dieu pour la sainte crainte qu'il a mis en nous devant sa parole qu'il a mis dans notre cœur. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Levons-nous et nous allons ensemble entonner ce cantique ce cœur tel que je suis sans rien de moi. Et ensuite, nous allons ensemble prier. Gardons les têtes courbées, les yeux fermés. Nous ouvrons les cœurs. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous voulons aujourd'hui prier pour tous ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu. Laissez-moi demander directement, est-ce qu'aujourd'hui parmi nous, nous avons quelques-uns qui veulent consacrer leur vie à Dieu? Levez courtement les mains. Avons-nous là-bas, partout les mains se lèvent. Qui a des problèmes spirituels, levez courtement les mains. Qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, quelque chose qui vous fatigue, que Dieu vous bénisse. Qui a des problèmes corporels, et que vous avez besoin de guérison, qui a besoin de délivrance, qui est encore lié à ceci et cela. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Dieu voit les mains qui se lèvent. Dieu voit les cœurs. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il est écrit. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Ce qu'il a fait, ça, il le fait encore aujourd'hui. Il a promis, je suis auprès de vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il est écrit qu'il a confirmé la parole par des signes et des prodiges et des miracles. Et encore aujourd'hui, il confirme, il l'a confirmé. Nous le croyons simplement et cela de tout notre cœur. Mais dans la chose principale, combien veulent vraiment une clarté claire et entière par le Saint-Esprit sur le conseil du salut de notre Dieu? Mais bien sûr, là à cela, tous peuvent lever les mains. Ça, nous le voulons tous. Prions maintenant ensemble. Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta parole, pour ta grâce. Nous te remercions de ce que, de face à face, tu parles avec nous et que ce sont des paroles de vie, paroles de puissance, paroles de révélation que tu nous adresses. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses avoir ton chemin avec nous, dans toute l'Europe, dans le monde entier, dans l'Amérique, en Amérique du Sud. Béni, bien-aimé Seigneur, appelle ton peuple à sortir, que tu puisses faire de grandes choses dans ton Église, que tu puisses témoigner ta présence de manière surnaturelle. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, bien-aimé Seigneur, tu as une Église modèle que tu as placé devant nos yeux. Mais toi, tu as fait toutes ces choses autrefois dans l'Église primitive, qui est notre modèle aujourd'hui placé devant nos yeux. Que tu puisses aujourd'hui aussi faire toutes ces choses en nous que tu as fait autrefois dans les premiers chrétiens. Alléluia. Pour qu'il puisse devenir l'Église modèle. Alléluia. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Oh grand Dieu. Grand Dieu, grand Dieu, alléluia, alléluia, gloire à toi, gloire à toi, louez le Seigneur, louez la puissance de son sang, la puissance de sa parole, la puissance de son esprit, remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Chantez, chantez, chantez-lui des louanges au Seigneur. Alléluia. Que tout ce qui respire, que tout ce qui respire, que tout ce qui respire, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Chantons ensemble. Tu es digne. Tu es digne. Oui, elle se manifeste comme l'action de l'Esprit et le ministère qui en 1946 a commencé à expérimenter son réveil. C'est ainsi que maintenant nous nous tenons devant la partie du réveil et de l'action surnaturelle extraordinaire de Dieu parmi nous et dans le monde entier. Alléluia. 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 Oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Proche de la maison, proche de la maison. Ceci est le jour, alléluia. Et que tout le peuple dise Amen. 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 Que tous avec nous soient bénis qui ont écouté et qui ont vu en direct dans tous les pays et dans toutes les langues, particulièrement en Amérique du Sud. Que Dieu vous bénisse là-bas. Oui, que Dieu bénisse partout de la plénitude de sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.